Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir ceux qui font bouger la France, les talents d'aujourd'hui et de demain. Des femmes, des hommes qui se lancent et qui font bouger les lignes. À mes côtés en studio, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Ils sont vides ou presque, mais ils viennent de rouvrir et espèrent bien se remplir à nouveau. Les palaces cherchent désespérément les touristes et businessmen étrangers. Alors, comment faire face à cette situation inédite? La réponse d'ici 14h avec Laurence Bloch. C'est notre invitée et c'est la directrice du prestigieux Plaza Athénée à Paris.
À la une en effet aujourd'hui Emmanuel, les palaces, ils nous font rêver. C'est l'hôtel des années folles face à la Grande Bleue. Le Martinez existe depuis 1929. C'est notre saga du jour. On ira à Cannes à 13h30 pour tout savoir de ce palace mythique.
1 minute 30, pas une seconde de plus. Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur qui se lance vient tenter de vous convaincre et de convaincre notre grande patronne du jour. Soyez au rendez-vous. Cette fois, c'est à 13h40. Et aujourd'hui, on sera avec Rapidol pour commander ses produits préférés. Le tout en faisant vivre nos commerces de proximité.
Demain, au travail, décryptage sur nos nouvelles façons de travailler, comment accueillir des nouveaux collaborateurs en pleine période de crise et de télétravail. On a trouvé pour vous aujourd'hui une entreprise qui met tout en place pour faciliter l'intégration de ces nouveaux salariés. On filera en fin d'émission au forum de la RSE à Giverny, dont Europe 1 est partenaire.
Allez, bienvenue à tous dans La France bouge, on est ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Alors, ils viennent tout juste de rouvrir, privés de leurs clientèles étrangères et des plus fortunés. Ils, ce sont les hôtels de luxe hein, qui reprennent quand même timidement vie. Comment attirer une nouvelle clientèle faute de touristes étrangers?
Et on en parle avec vous, Laurence Bloch. Bonjour.
Bonjour. Merci. Emmanuel. Bonjour Elisabeth.
Emmanuel, c'est joli. Non, mais Elisabeth, vous êtes la directrice du Plaza Athénée. Alors, le Plaza a ouvert en 1913. C'est l'un des plus mythiques établissements de Paris. On le sait, les derniers mois ont été cataclysmiques. En Ile-de-France, le tourisme s'est effondré de plus de 14 millions de personnes. Le manque à gagner est énorme. Vous, ce sont 5000 mètres carrés fermés pendant 5 mois. Ça a dû être très long, très très long. Comment ça va après ces 5 mois de fermeture?
Ben là, très bien. Les employés sont revenus. On n'a pas un hôtel fantôme. Les clients aussi. On a eu beaucoup de chance parce que on a des clients qui nous aiment et qui ont dit dès le premier, on viendra vous soutenir. Et ils étaient là. Donc là, ça va bien. Et
mais ils sont tous là? C'est-à-dire l'hôtel est rempli?
Non, bien sûr. Donc, comme vous savez, les aéroports sont fermés. On a 90% d'étrangers. Donc, effectivement, ça nous affecte. Donc, non, là, on a 15% de taux d'occupation.
Mais c'est véritablement des habitués qui vous ont appelé en disant « On veut vous montrer notre soutien, on veut que vous continuiez à pouvoir ouvrir, donc on réserve une chambre. »
Que ce soit en chambre ou en restauration, oui. Mmh. Et même un Belge qui, lui, n'a pas... quand les frontières ont dû être fermées, il a décidé de quand même venir en voiture. Il a dit « tant pis pour la quatorzaine ».
Donc on va vérifier dans un instant comment ça se passe. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 5 mois? L'hôtel était, j'imagine, quasiment vide. Il y avait, j'imagine, une toute petite équipe qui l'entretenait. Mais on fait quoi pendant ces 5 mois?
On réfléchit. Donc la première chose, évidemment, c'est les employés. Qu'est-ce qu'on fait pour les protéger, pour les rassurer? Donc ça a été notre première réflexion, c'est les employés. Donc la communication, donc la première chose qu'on leur a dite, c'est on garde les emplois et vous serez payés à 100%.
Et c'est
ça,
ce qui s'est passé.
Je pense que c'était vraiment très important. C'est la première chose, la première de nos réflexions.
Alors, une fois les salariés rassurés à l'intérieur, vous avez fait des travaux, vous êtes occupé comment?
Bien sûr. Donc, d'abord, on a eu la sécurité et le service technique qui étaient présents pour rassurer le bâtiment, là. Mmh. Il fallait... on ne se rend pas compte, mais on a 25 000 mètres carrés. Et quand l'hôtel n'est pas en route, il faut faire couler l'eau contre la légionellose, par exemple, ou il faut dévisser tous les mousseurs pour qu'il n'y ait pas de calcaire.
Mmh. Il faut, comme la vieille maison de campagne, si on la laisse à l'abandon,
mais
on la retrouve, elle n'est pas en
forme.
Fois 25 000 mètres carrés, c'est compliqué.
Et puis, bien sûr, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on ne peut jamais faire quand l'hôtel est ouvert, là il est fermé et donc on a refait le 7e étage, que ce soit les salles de bain ou les chambres, on a refait des escaliers du personnel, parce que l'hôtel quand il est complet, bien sûr on ne peut pas arrêter le back-office non plus. Donc on a réfléchi à tout ça.
Vous le disiez à Laurence Bloch, vous êtes seulement en ce moment à 15% de remplissage. Comment vous pouvez imaginer faire revenir vos touristes quand on sait que les vols transatlantiques avec les États-Unis sont quasiment arrêtés, qu'il n'y a quasiment pas de vol avec la Chine, qu'il n'y a quasiment pas de vol avec la Russie? Comment on fait pour essayer de le remplir? Parce que j'imagine que là, quand vous allumez la lumière, vous perdez des milliers d'euros chaque jour.
Complètement, mais moins que si on était fermé. C'est ce rapport-là qu'on essaye d'optimiser, parce que je pense que le gouvernement a été vraiment très... Il nous a beaucoup soutenus.
Donc vous vous sentez soutenu aujourd'hui ?
Ah bah complètement. Je veux dire, sans le soutien du gouvernement, là, vraiment, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué.
Hier soir, sur France 2, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit « Si le secteur du tourisme a encore besoin de nous après le 1er janvier, on sera peut-être là. » Puisque vous avez un dispositif de chômage partiel qui tient jusqu'au mois de décembre, jusqu'à fin décembre. Vous, là, très clairement, quand vous voyez cette situation cataclysmique, vous lui dites « Merci, monsieur le ministre, mais il va falloir payer parce que oui, on va en avoir besoin. »
Oui, mais il a déjà mis la PLD en route. Donc on a déjà
la
PLD.
Donc la PLD, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'activité partielle de longue durée qui permet de négocier un accord avec ses salariés de maximum 2 ans. Et vous pouvez baisser le temps de travail de 40%, donc le salaire et l'État
prend... Vous êtes très très bien enseigné.
Bon, on essaye dans la
France. Chef du service économie d'Europe aussi. Hein.
Mais vous avez signé un tel accord, par exemple? Vous êtes en train de le négocier?
Oui, on est en train de le négocier, bien sûr. Parce que ce qui nous importe le plus, c'est de ne pas licencier. On l'a promis, on ne va pas licencier. Donc ça sera vraiment... notre axe.
Alors, 15% de taux d'occupation. Alors, pour les clients qui osent et qui franchissent la porte du Plaza Athénée, comment vous les rassurez?
Écoutez, ils viennent d'abord parce qu'ils sont rassurés. C'est-à-dire qu'ils sont rassurés de venir au Plaza Athénée parce qu'ils savent que, d'une façon générale, on fait les choses assez proprement.
Alors, qu'avez-vous mis en place?
Donc, d'abord, on est labellisé Veritas. On a voulu absolument, du point de vue technique, les rassurer par un label. Donc ça, ils sont rassurés, s'ils devaient l'être, mais ils viennent justement parce qu'ils savent qu'au Plaza Athénée, les choses ne vont pas véritablement être bouleversées. On a déjà les normes d'hygiène, HACCP, etc. Donc on était Veritas ISO 9001, donc tout ça est en place. On n'a absolument pas voulu rendre le lieu anxiogène.
Donc il n'y a pas de balisage sur le sol, j'imagine?
Non, on a des mobiles.
Dans un palace.
En fait, on a mis la distanciation sociale.
Un mobile
par
comme
des mobiles, des femmes qui viennent du plafond et tous les
comme
un
dans
mètre.
Les, un mobile, c'est-à-dire
ouais, comme le mobile de votre enfant,
de
Elisabeth,
notre enfant,
que vous mettez.
Voilà, au-dessus du
lit. C'est comme on est l'hôtel haute couture, c'est des femmes haute couture qui ont été dessinées et qui pendent du plafond. C'est un exemple. Mais voilà, on a essayé d'être créatif.
C'est-à-dire, vu que vous êtes dans un lieu de plaisir et d'exception, pour vous, il ne faut pas que le plaisir soit annihilé. C'est ça que vous nous dites.
Exactement.
Laurence Bloch.
Et il ne faut pas que ce soit anxiogène. Donc, il y a tout ce qu'il faut aux endroits où il faut, mais d'une façon esthétique.
Et on va continuer à en parler pour le moment. Il est 13h18, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et oui, la France se bouge avec notre grande patronne du jour, Laurence Bloch, qui est la directrice du Palace Le Plaza. Athénée-vous, restez avec nous. Alors, on l'a entendu officiellement, on va voir dans un instant si les prix ont baissé ou pas du côté du Plaza Athénée. On va se poser la question, et si on veut se faire plaisir, et si on ne veut pas payer peut-être aussi cher que dans tous ces palaces, on a trouvé pour vous des astuces pour payer moins cher. Et il paraît que pour cela, il faut aller faire un tour sur... Verichic.
Eh oui, on en parle avec vous, Nicolas Clerc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Verichic. Ça existe depuis 10 ans. Vous venez tout juste de Barcelone. Hein. Vous êtes venu là pour être dans notre studio à Europe 1. C'est un site de vente privée de séjours dans des hôtels de luxe. Comment ça s'est passé cet été pour vous?
Pas très bien. Non, en fait, de manière assez simple. Verichic est une agence de voyage assez traditionnelle qui distribue tous ses produits en vente privée. Ça, c'est la manière spécifique qu'on a d'adresser et de proposer à nos clients de voyager. Et on avait fait grandir notre entreprise en ajoutant, année par année, des nouvelles destinations qui étaient des destinations qu'on maîtrisait très bien. Maîtriser bien une destination, ça veut dire connaître les hôtels avec lesquels on va travailler, assurer une excellente connaissance de la destination pour garantir à nos clients le fait que l'expérience qu'ils y vivront sera impeccable. On avait 40 destinations avant la crise. Cette année, on a fonctionné avec 5 destinations.
Lesquelles?
La France, principalement, l'Italie, la Grèce, l'Europe centrale de manière générale et l'Espagne sur le début de l'année et plus du tout au mois d'août et à nouveau un peu maintenant.
Il y avait un espoir au milieu de l'été que les gens se disent « Allez, cette année je reste en France, mais je vais partir à la Toussaint ou à Noël et je vais réserver ». Semble-t-il, il y a eu un petit frémissement à un moment, sauf que voilà, l'épidémie étant partie, repartie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez du coup des inquiétudes également sur cette période et il ne se passe pas grand-chose puisque les gens ne réservent pas ?
Très franchement, inquiétude et agent de voyage en 2020, ça va bien ensemble. C'est-à-dire qu'on a évidemment eu un niveau d'incertitude qui est très élevé sur l'industrie hôtelière en général, sur l'ouverture ou la fermeture des marchés. En revanche, ce dont on est certain, c'est que toutes les mesures qui sont prises par les gouvernements pour pouvoir assurer localement l'excellent accueil des clients dans les régions réceptives valent la peine d'être suivies. Donc ce qu'on pousse, nous, et ce qu'on propose à nos clients, c'est de bien respecter ces règles sanitaires qui sont propres à chaque destination. C'est suivre nos conseils de professionnels du voyage. On sait à peu près de quoi on parle et on n'enverra jamais nos clients dans des zones dangereuses. Et c'est derrière de séjourner dans des hôtels qui sont des hôtels qui sont, comme l'hôtel de Laurence, des hôtels qui sont capables d'accueillir dans des conditions sanitaires remarquables.
Mais malgré tout, dans tous ces hôtels et dans tous ces lieux d'exception comme le Plaza, mais dans tous les lieux que vous proposez également, on l'a entendu il y a un instant, la notion de plaisir. Partir en vacances avec un masque, est-ce que c'est une vraie notion de plaisir, de devoir avoir un créneau pour aller à la piscine parce qu'on ne peut pas être tous ensemble autour de la piscine, quitte à dépenser très cher pour se faire plaisir, on attend peut-être à ce moment-là. Vous ne croyez pas qu'on va donc mettre une croix sur cette saison même d'hiver à venir, d'automne-hiver ?
La saison 2020, on a tous collectivement mis une croix dessus. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais il y a aussi une chose qui est certaine, c'est que la beauté du monde, elle, n'a pas disparu avec le Covid. Donc, qu'il s'agisse de la vie à l'intérieur d'un hôtel avec des clients qui sont traités comme ceux de Laurence ou tous les hôtels que vous pourrez trouver sur Verichic qui sont sélectionnés parce qu'ils offrent justement ces mêmes garanties d'excellence de l'expérience, ça ne bougera pas.
Ça ne bougera pas, mais par exemple, tiens, aujourd'hui, j'ai trouvé ce matin, on a trouvé ensemble un séjour
dans un
hôtel.
Vous n'avez cherché que pour vous et votre famille, vous avez raison.
5 étoiles, alors 5 étoiles sur la Costa Brava en Espagne, à moins 50%, 59 euros la nuit. Comment puis-je être rassurée ? Est-ce que cet hôtel en Espagne aura les mêmes normes que celui le Plaza Athénée ou d'un autre hôtel de la même catégorie, c'est-à-dire comment mettre au même niveau toutes et rassurer toutes les normes sanitaires d'un pays à l'autre, ça diffère.
Alors évidemment, ça diffère d'un pays à l'autre, mais néanmoins, les principaux pays dont vous parlez, l'Espagne en particulier, sont des pays qui ont été très sensibles à l'impact du Covid. Donc le niveau d'attention qui est porté au risque sanitaire est extrême et il s'applique particulièrement fortement dans les hôtels. Et encore plus, dans cet hôtel que vous citez, que je connais bien, qui est un hôtel qui est disponible sur Verichic aujourd'hui.
Oui, je l'ai vu ce matin.
Et que on distribue parce qu'on le connaît, parce qu'on est allé le visiter, parce qu'on est contact fréquent avec eux et qu'on sait que si on le met aujourd'hui sur notre site, c'est parce que le respect des normes sanitaires est à minima celui qui est imposé par l'Espagne, mais en fait va assez au-delà de tout ce qui est proposé et par l'Espagne et par les comportements
qui
sont imposés aux clients français.
Est-ce que les hôtels avec lesquels vous travaillez vous appellent là pour dire allez casser les prix parce qu'il faut que je remplisse ? Soyez honnête.
Oui, la réponse est oui. Et notre réponse, elle est variable. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de destinations dans lesquelles on pense que la casse de prix est la seule solution possible pour pouvoir faire revenir un trafic. Et là, il y a d'autres destinations, c'est le cas de Paris par exemple, dans lequel on pense qu'il faut maintenir un niveau minimum de prix pour être sûr qu'on ne rentre pas dans une chute des prix infernale.
Laurence Bloch, patronne du Plaza Athénée, il vous a aidé un peu, vous avez le droit de me mentir. Vous n'avez véritablement pas baissé les prix ?
De toute façon, vous pouvez le voir sur le site.
Oui, mais on sait que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est comme le prix affiché dans la chambre, c'est jamais le prix qu'on paye.
Non, on n'a absolument pas baissé les prix. Avec 15% de taux d'occupation et 200 employés qui travaillent actuellement, on ne veut absolument pas baisser le service. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là. Donc les clients payent le même prix, mais ils ont un service même plus.
Le double de personnel pour eux ?
Non, parce que normalement, on est 500. Et là, il y en a 200.
Mais alors, ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas baissé les prix ? Ça veut dire que le petit déjeuner est monté dans la chambre. Automatiquement, ils ne peuvent pas descendre en salle ?
Bien sûr. Si, ils peuvent descendre en salle. Les services sont exactement les mêmes. Simplement, la distanciation est plus importante. Entre les tables, on a mis plus d'espace. Donc, on a perdu 30% de nombre de couverts dans chacun des lieux. Mais le service est exactement le même.
De toute façon, à 15% de remplissage, c'est très facile de respecter la distanciation. Il faudrait vraiment qu'ils arrivent tous à la même minute au petit déjeuner pour que ça vous pose problème.
Non. Excusez-moi, on a beaucoup, beaucoup de Parisiens. Et au petit déjeuner et dans les restaurants.
Donc une clientèle
d'affaires. C'est 70% des Parisiens et pas les clients de l'hôtel. Donc, par exemple, le petit déjeuner, le brunch est complet dimanche. On a été complet tous les petits déjeuners depuis le 1er septembre.
Justement, Laurence Bloch, dans ce contexte de crise sanitaire, est-ce que vous essayez d'attirer une clientèle plus locale, même pour y passer la nuit, vu que les Russes, les Chinois, les Américains ne sont plus là ?
Non. Je pense que on met en place des expériences, effectivement, mais on n'essaye pas d'essayer d'avoir plus des Parisiens. On a mis un package pour les Parisiens, mais c'est, on n'a pas baissé les prix pour ça. C'est ça que je veux dire. C'est des expériences, etc., mais on n'a pas baissé les prix.
Merci beaucoup à Nicolas Klein d'être venu de Barcelone pour nous dans cette France Bouge sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de Verechic. Vous restez avec nous sur Europe 1. Il est tout juste 13h28.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et comme chaque jour, hein, à la même heure, on est très heureux avec Elisabeth de vous rejoindre et de vous accueillir sur Europe 1. Aujourd'hui, on parle des palaces avec Laurence Bloch, qui est la patronne du Plaza Athénée à Paris. Alors, depuis quelques années, le marché des palaces s'est fortement densifié à Paris. De nouveaux noms sont arrivés. Le Shangri-La, le Peninsula, le Phuket, pour ne citer que ces marques mythiques. Alors qu'avant, vous étiez le Plaza Athénée, le Crillon, le Ritz, un peu tout seul sur la place de Paris. C'était une bonne nouvelle, ça vous a obligé à vous secouer pour vous réveillez, vous aussi ?
Toujours. La concurrence, c'est toujours une bonne nouvelle. Et surtout, comme vous l'avez dit, c'est des palaces asiatiques pour la plupart. Et donc, nous ont amené des Asiatiques. Parce que ça les a rassurés. Ça a rassuré les Asiatiques de venir à Paris. Donc, je pense qu'au contraire, on en a beaucoup profité. Et on s'est remis en question, bien sûr.
Vous vous êtes remis en question. Alors, ça reste des hôtels très chers. Hein. C'est même, on peut le dire, c'est hors de prix pour la plupart des personnes. Alors, comment aujourd'hui convaincre les jeunes, certains ont un fort pouvoir d'achat, d'aller dans votre établissement alors qu'on voit de plus en plus des sortes de boutiques hôtels au même prix qui proposent d'autres services et qui attirent une clientèle jeune à fort pouvoir d'achat? Comment vous faites pour leur dire non, venez chez moi?
Je pense que ça dépend de leurs besoins, mais c'est on descend dans un palace d'abord pour l'ego. Il y a, à mon avis, 40%.
C'est marrant que vous disiez ça.
C'est-à-dire pour l'ego.
C'est pour se faire plaisir.
Je descends au Ritz, je descends au Plaza Athénée.
Donc pour pouvoir dire quand je rentre dans mon pays,
bien sûr,
à mon collègue, dire moi, je suis allé au Plaza Athénée à Paris.
Mais dedans, il y a le service. Un concierge peut vous trouver des souris blanches à 3h du matin. Une boutique, un hôtel, boutique-hôtel, pas. Les 500 employés que nous avons, c'est pas juste pour faire plaisir, c'est parce qu'il y a un vrai service derrière.
Des souris blanches, c'est déjà arrivé, parce que je reste bloquée sur ça.
Oui, c'est déjà arrivé. On a des demandes. Un palace, il faut avoir les clients qui vont avec, en fait. C'est les demandes des clients qui font la qualité du service. C'est pas l'inverse. Donc, un concierge de palace, il est meilleur qu'un concierge de boutique hôtel.
Tel qu'il sera au même prix.
Parce que la demande du client est différente.
C'est très intéressant cette question d'ego, mais est-ce qu'elle n'est pas générationnelle? Est-ce que parfois l'image du Plaza Athénée, mais du Crillon, du Ritz, hein, de tous vos concurrents, ne peut quand même pas faire peur à une clientèle qui n'a pas obligatoirement l'habitude et qui doit justement pousser pour la première fois les portes, peut-être d'un rêve, mais d'un rêve qui peut faire peur?
Alors, vraiment pas, je ne crois pas, parce que quand on voit notre clientèle où nous avons beaucoup de jeunes millionnaires et milliardaires, ils n'ont pas du tout peur, et beaucoup moins que l'étaient leurs parents, peut-être, à venir dans les palaces. Donc pas du tout. Ça s'est beaucoup démocratisé. À Paris, il y avait le Plaza où vous veniez dans les restaurants il y a 50 ans. Le Relais Plaza a toujours été très parisien. Maintenant, dans tous les palaces, je crois, les restaurants sont là où les Parisiens viennent. Et il n'y a pas du tout de problème de génération. Alors, je crois que c'est un faux problème.
Alors, au-delà du nom, le Plaza Athénée, est-ce que vous avez mis en place de nouveaux services aussi pour faire face à cette concurrence?
Alors, on a, depuis 20 ans, mis beaucoup, beaucoup dans l'expérience. Hein. Notre vision, c'est « il était une fois le palace de demain ». Donc, on passe notre temps à réfléchir sur des expériences nouvelles, comme la patinoire qu'on met l'hiver. Donc, on est toujours dans l'expérience. Tous nos clients peuvent aller visiter la cave de 35 000 bouteilles. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'expériences déjà. On n'a pas eu besoin, à cause du Covid...
Non, ou de l'arrivée de la concurrence, tout simplement, des boutiques hôtels.
Oui, mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on est tellement en avance que on a beaucoup de personnes qui nous copient. C'est un peu l'inverse.
Donc vous pensez que vous n'avez pas de chance de vous faire rattraper. Il y a une clientèle importante, c'est la clientèle affaires. Officiellement, les congrès et événements doivent pouvoir se tenir logiquement, à peu près normalement, dans les semaines à venir à Paris. Est-ce que vous avez une sorte de confirmation quand même que quelques clients qui avaient prévu de venir pour tel ou tel salon vont quand même venir?
Alors, on n'a aucune visibilité. Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que les clients eux-mêmes n'ont aucune visibilité. Ce qu'ils adorent dans les palaces aussi, c'est de pouvoir réserver au dernier, à la dernière minute, qu'on leur dise oui. S'ils annulent, on ne les facture pas. C'est cette possibilité-là qu'ils achètent aussi. Mmh. Donc, on a pris peut-être... je sais pas, on prend 50 nuitées par jour pour le mois de septembre. Mmh. Donc c'est vraiment du dernier à la dernière minute.
Vous êtes aussi l'hôtel des stars, hein, malgré tout, comme là aussi la plupart de vos concurrents, mais malgré tout, le Plaza fait rêver. Est-ce que là, en revanche, bah, les gens ont peur de venir en France? Est-ce que vous sentez quand même cette peur? On a entendu tout à l'heure que vous disiez que vos clients fidèles vous ont envoyé un petit signal. Mais malgré tout, est-ce que ces autres clientèles habituelles vous disent « bah non, on reviendra l'année prochaine, on reviendra peut-être deux jours de plus, mais... »
Alors, ils ont absolument... Ils n'ont pas peur d'attraper le Covid, etc. Mais ils n'aiment pas les contraintes. Donc, ils ont peur de revenir dans leur pays et qu'on leur demande de rester en quatorzaine. Mmh. C'est ça dont ils ont peur. Donc, effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas revenir facilement, ils viendront l'année prochaine. C'est bien clair. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est à 15%.
Mmh. Alors, Laurence Bloch, directrice du Plaza Athénée, vous restez avec nous. Vous êtes la patronne du jour dans la France Bouge aujourd'hui sur Europe 1. Alors, on va s'intéresser à un tout autre palace.
Hein. Vous nous emmenez où, Elisabeth ?
Je vais vous emmener à Cannes, face à la Grande Bleue, dans un hôtel des années folles. Avec vous, Yann Gillet, bonjour.
Bonjour. Bonjour, Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas en studio, vous êtes dans votre hôtel, hein, au Martinez, à Cannes, face à la mer. Le Martinez, Emmanuel, c'est notre saga du jour, un hôtel mythique. Hein. Vous faites rêver depuis les années 30, Yann Gillet. Alors pourquoi le Martinez est-il un hôtel de légende ?
Oh bah alors, c'est un hôtel qui, depuis les années 30, depuis 1929, reçoit les stars. D'ailleurs, Emmanuel Martinez, quand il avait créé le Martinez dans les années 30, juste après la crise de 29, a reçu les grandes stars du moment, les Francis Scott Fitzgerald, Paul Valéry, Miss Tinguette, Joséphine Baker. Et depuis toujours, on accueille les grandes stars sur la Côte d'Azur, également toutes les têtes couronnées. C'est une tradition chez nous.
Et elle se perpétue, cette tradition, bien évidemment grâce au cinéma à chaque festival de Cannes, mais vous avez encore toutes ces grandes stars qui, même hors cet événement, viennent et font toujours vivre cet instant de légende.
Alors oui, c'est d'ailleurs notre cible, hein, le Martinez, on a notre clientèle cible, c'est toujours les célébrités, on aime les recevoir parce que de toute façon ça fait partie de notre ADN, et on en a eu cet été, on en a encore dans l'hôtel en ce moment, c'est vraiment notre cible, puis c'est un hôtel qui s'y prête, il a été totalement rénové, il est en milieu de la Croisette, il est face à la mer, là je me suis installé dans une chambre là, et j'aimerais beaucoup vous montrer ce que je vois, la mer est bleue, le sable est blanc, il fait 28 degrés,
c'est la suite
il y a un
de
ciel
quel...
absolument magnifique.
Et c'est la suite de quel acteur ?
La chambre.
Quelle actrice ?
Alors, je pourrais vous donner le numéro de chambre, mais je ne sais pas, parce qu'il y en a 415 des chambres. Alors, il faudrait que je les connaisse toutes par cœur. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'être une star. Et quand on est dans nos chambres, on a l'impression d'être dans la peau de Brad Pitt. Enfin, ça me fait du bien de me dire que je ressemble à Brad Pitt. Mais
je suis sûr que vous êtes le portrait craché.
Voilà. Bah, non, pas tout à fait. Mais effectivement, c'est l'idée de venir au Martinez et de se sentir une star, de vivre le glamour, le chic. Et je pense qu'en cette période-là, les gens en ont vraiment besoin.
Alors, 415 chambres, vous avez fait des travaux, hein, il y a quelques années, un siècle après son ouverture. Hein, je crois que c'était en 2018. Là, cet été, c'était un été vraiment particulier. Vous dites qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait des stars. Vous avez été rempli, vous, cet été ?
Alors oui, alors c'est vrai qu'on ne se préparait pas à être rempli. On a été un petit peu surpris par le succès de la Côte d'Azur. Alors, c'est vrai que j'ai entendu un petit peu le débat. Alors, c'est toujours, vous savez que les prix aujourd'hui dans l'hôtellerie, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est dynamique. Ce qui est surtout important, c'est qu'on a vendu moins de suites que d'habitude. Ce sont des chambres premium que l'on vend davantage à des touristes étrangers. Mmh. Et comme la demande était plus faible, on a davantage vendu des chambres standards, des chambres de luxe,
avec
plutôt que les grandes suites.
Avec des packages, hein, je crois, avec des trois nuits offertes pour le prix de deux, il me semble.
Alors non, vous aviez, ouais, c'était 3 plus 1 plus 4, voilà. C'était une promotion de la ville qui a très très bien fonctionné, c'est vrai. On a eu avec le parking le parking, qui a d'ailleurs été un grand challenge pour tous les hôtels de Cannes, parce que tout le monde est venu en voiture. Mmh. Et quand vous avez un hôtel comme le Martinez, qui a été fait en 1929, il y a plus des calèches à l'époque, donc on n'avait pas de parking. Donc il a fallu gérer au mieux le service du valet dans les rues et sur la croisette. Mais dans l'ensemble, on a eu une très 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 belle saison.
Une belle saison chez vous, ce qui est très important aussi, c'est l'arrière-saison, le mois de septembre, le mois d'octobre, où traditionnellement ça se passe relativement bien du côté de Cannes. Là, le Plaza nous a avoué qu'ils étaient à 15% de remplissage. Vous, comment ça se présente ?
Alors le mois de septembre va être encore très bon parce que c'est l'arrière-saison et on va avoir des week-ends qui sont très bien et c'est vrai qu'on commence à avoir aujourd'hui une occupation qui descend plutôt aux alentours de 50% sur la semaine et on marche encore très bien le week-end. Cannes est une ville de congrès, alors vous savez les grands congrès de Cannes malheureusement n'auront pas lieu, que ce soit le MIPCOM, le MAPIC, etc., tax-free, donc on va davantage se tourner sur une clientèle de loisirs essentiellement le week-end.
Laurence Bloch, vous êtes la directrice du Plaza Athénée. Le Majestic, ça vous fait rêver, vous aussi ? Vous dites non, je suis mieux chez moi.
Oh, ça me fait rêver.
Martinez.
Bien sûr. Martinez, et puis l'environnement et évidemment la plage et le soleil. Mais évidemment, c'est un des palaces, il est légendaire et ça fait rêver.
Ça fait rêver. En tout cas, on l'a retenu, hein, une très bonne saison pour vous au Martinez. On vous souhaite que ça continue chez vous. Yann Gilleux, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'hôtel Martinez et merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Et Laurence Bloch, la directrice du Plaza Athénée à Paris, est notre grande patronne. Elle est avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et il est 13h45 sur Europe 1 dans cette France bouge. Vous êtes prête, Laurence Bloch ? C'est un moment important dans l'émission, hein, puisque vous allez devoir donner votre avis sur le pitch, comme on dit, que va faire notre pépite de demain.
Et oui, bonjour Steve Broutin.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Rapidle, R-A-P-I-D-L-E. Rapidle, c'est une solution, on peut dire, de click and collect, hein, c'est-à-dire qu'on commande et on va chercher, de livraison pour les commerces de proximité. Alors vous allez tout nous dire, vous allez tout nous raconter. Laurence Bloch, la directrice du Plaza Athénée, a mis sa casquette de coach et on va vous écouter. C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Donc Rapidle est une société d'une quarantaine de personnes qui en effet propose une solution de click and collect et de commande en ligne de livraison à destination du commerce de proximité et des restaurateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez un consommateur qui d'un côté va commander en ligne, va payer et va venir retirer son produit directement via un coup de fil dans le commerce en question. De l'autre côté, du côté du commerçant, eh bien, quand la commande est passée, il va recevoir un ordre de préparation. Donc ça veut dire un ticket qui est imprimé sur une imprimante et puis une alerte sonore sur une tablette pour faciliter son travail. Et quand vous allez vous rendre directement dans le commerce, vous allez retirer sans attendre, dans le strict respect des gestes barrières et aussi sans contact, votre produit. Qu'est-ce que nous réalisons ? Ben nous faisons tout pour le commerçant, c'est-à-dire que nous allons créer son catalogue, faire les photos, intégrer les systèmes de paiement, l'accompagner, l'aider à la transformation numérique pour en faire un commerçant digital. Les commerçants aujourd'hui que nous livrons donc, sont essentiellement des commerçants, vous l'avez compris, dans la boucherie, dans la boulangerie, chez les primeurs. Et on est face aujourd'hui à une accélération de ce commerce, puisque bien évidemment, le Covid nous a beaucoup aidé pendant ces périodes d'avril, mai et juin. Bien évidemment, nous accompagnons nos commerçants tout au long du parcours. On ne les lâche jamais, c'est important. C'est des gens qui ne sont pas des technophiles, qui ne sont pas des informaticiens. Et nous sommes à leur disposition pour les aider. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de consommateurs depuis le 1er janvier 2020. Ce sont 350 boutiques équipées.
La petite musique
en France
a retenti, c'est terminé.
Moi,
je l'entends pour vous, donc je suis obligé de vous couper.
Non, mais c'était bien, on a tout compris. Ouais.
Franchement, c'était super. Laurence Bloch, vous en pensez
très
quoi
clair. 1 minute 30, incroyable.
Merci.
Ce que je trouve formidable dans cette application, c'est que justement, le commerçant a la main dessus. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, les clients lui appartiennent. Et ça, je trouve que c'est...
C'est bien.
Vous pourriez être cliente. Là, en entendant ça, vous vous dites, tiens, c'est pratique, j'ai pas toujours le temps de faire mes courses.
C'est exactement le temps. Le temps nous manque, donc ça va me permettre, je ne connaissais pas, et ça va me permettre d'être encore plus efficace dans mon temps.
Alors, vous avez dit que ça avait très bien marché en avril, mai, juin, Steve Broutin.
Oui.
Là, ça continue ou il y a un petit ralentissement ?
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, vraiment constaté une modification du mode de consommation. On a des boulangers, par exemple, on nous avait dit, mais la baguette ne se vendra jamais en ligne, ça n'existe pas, c'est pas possible, on ne va pas acheter sa baguette en ligne chez son boulanger. Eh bien, on a vendu des milliers de baguettes en ligne chez les boulangers, les consommateurs se sont roués. On a fait du fois 1000 en termes de progression. J'expliquais un petit peu en avant-plateau qu'on a vu des courbes s'affoler et on n'y croyait pas, nous-mêmes. On se disait, mais il y a un bug quelque part. Non, la consommation est arrivée massivement et elle se stabilise. Elle a baissé, mais elle se stabilise.
Vous l'expliquez comment ? Parce que les gens ont peur d'aller dans les magasins et se disent, bah, au moins je prends mes produits habituels, tout va être préparé quand j'arrive. C'est ça la raison principale ?
Oui, on est dans une période anxiogène, on ne va pas se cacher. Quand on voit 10 personnes attendre sur la rue à 1 mètre de distance, bah, ça fait tout de suite un effet de masse qui fait un petit peu peur. Je n'ai pas la garantie du produit disponible. Je commande en ligne, là je suis sûr qu'il est disponible. Et je coupe la file et je le retire sans attendre.
De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ? Vous êtes venu là, dans la France Bouge, vous avez expliqué tout l'objet de votre activité. Aujourd'hui, vous avez besoin de fonds ? Vous avez besoin de quoi ?
Pas forcément de fonds, plutôt de s'adosser à un intégrateur de système ou un partenaire industriel ou technologique. C'est plus ça que des fonds. Aujourd'hui, on est une société rentable, on se développe. Mais si on veut s'accélérer, c'est plutôt en passant par en s'adossant à une structure plus importante dans notre domaine.
Comme épicerie avec Monoprix, par exemple ?
Non, parce qu'on est presque plus gros qu'épicerie, mais épicerie avec Monoprix, oui, tout à fait.
Dans
le même esprit, tout à fait, mais plutôt un partenaire technologique.
Combien ça me coûte à moi, client, ma baguette par exemple, en plus, vous preniez cet exemple, et là on sait que l'élasticité de prix peut être très importante si on se dit je la paye 30%, 30 centimes plus cher, c'est bien gentil, mais je vais prendre mes petites jambes et je vais y aller tout seul.
Il n'y a pas de surcoût puisque contrairement à une plateforme, nous ne prenons pas de commission sur le chiffre d'affaires. Donc, le prix en magasin...
Et vous faites payer comment alors ? Vous faites payer votre solution ?
On vend la prestation de service, tout à fait. On vend la prestation de service au boulanger ou au charcutier.
Et là, on est sur les produits, entre guillemets, normaux du quotidien, pas comme sur les applications, par exemple, comme Too Good To Go, où on est plutôt sur de la lutte contre le gaspillage. Là, on est vraiment sur les produits que l'on a envie de se faire.
Et vous faites vivre les commerces de proximité qui, eux, n'ont pas forcément tout ce savoir-faire en technologie.
Exactement. Merci
à vous. Merci à vous, Steve Broutin.
Et si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez une envie de la tester, ce projet, cette idée, devant tout le monde, en direct sur Europe 1 et devant un grand patron, bah c'est très simple, il suffit de nous écrire sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Vous êtes sur Europe 1, il est 13h49, tout de suite, ma vie au travail. On file au forum de la RSE, Responsabilité sociale et environnementale de Giverny, dont Europe 1 est partenaire.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, dernière partie de votre émission, ma vie au travail. Nous sommes toujours avec notre grande patronne du jour, Laurence Bloch, directrice générale du Plaza Athénée à Paris.
Alors maintenant, c'est le moment de découvrir comment certaines entreprises construisent le monde du travail de demain. Aujourd'hui notamment, comment accueillir le mieux possible les nouveaux venus dans une entreprise, comment faciliter tout simplement leur intégration dans cette période si compliquée.
Et pour cela, on file au forum de la RSE à Giverny, deuxième édition. Europe 1 est partenaire de ce forum. Bonjour Pascal Corpé.
Bonjour à tous, bonjour.
Vous êtes cofondateur de Baïs Impact. Vous êtes en ligne avec nous depuis Giverny. Alors comment faire en sorte que le nouveau ou la nouvelle salariée qui arrive là maintenant donc en entreprise se sente le mieux possible au moment de l'intégrer ?
Chez nous, chez Baïs Impact, quand un nouvel entrant arrive, on choisit une personne qui va être son buddy, son copain ou copine d'intégration,
son parrain,
donc, l'aider, son parrain, son référent, qui va l'introduire à toute la culture et la richesse et l'équipe de l'entreprise.
Mais cette personne choisie, elle ne va pas travailler avec, elle n'a pas de lien hiérarchique avec cette personne.
Exactement, et si possible,
c'est
le but qu'il n'y ait pas de lien du tout hiérarchique, puisque la personne qui arrive est souvent stressée d'arriver, mais aussi en rapport à sa période d'essai, peut se demander... à quelque chose va être mangé, et du coup le copain, le buddy a pour mission de bien le mettre à l'aise et de ne surtout pas le juger la personne qui arrive.
Mais justement, pardonnez-moi l'expression, comment on forme ce buddy ? Parce que c'est pas toujours facile d'accueillir quelqu'un dans une entreprise et de savoir lui transmettre correctement les codes de l'entreprise et savoir transmettre tout ce dont a besoin de savoir son nouveau buddy.
Alors le buddy est là pour le plus, la culture, l'atmosphère dans l'entreprise. Pour tout ce qui est du travail, pour l'administratif ou le technique, c'est d'autres personnes qui s'en occupent. C'est le manager, ça peut être le RH. Donc, le buddy va être là pour les autres questions.
Donc, toutes les autres questions, c'est la culture d'entreprise. Hein. C'est ce qui se dit devant la machine à café. C'est toute cette communication informelle qui fait qu'on comprend un petit peu dans quelle entreprise on se trouve. C'est plutôt ça.
Exactement. Ça peut être des questions comme où sont les toilettes
à quelle heure je peux partir le soir.
Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on dit toujours, quand on prend un nouveau travail, il faut faire un retour d'expérience au bout d'un mois, se dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Et je crois que vous avez aussi mis en place cela dans votre solution, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, avec son buddy, on fait un point sur comment on se sent au sein de l'entreprise, si je ne dis pas d'annerie.
Exactement, non seulement comment on se sent, mais comment on a vécu l'intégration. Et on fait un retour non seulement au buddy, mais à toute l'équipe, pour dire qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'on peut changer.
Alors, vous faites ça depuis 3 ans. Et alors, votre propre tour d'expérience à vous, c'est quoi?
Alors, en tant que buddy, les personnes qui accompagnent, c'est intéressant de prendre du recul, de revoir un peu l'entreprise sous un autre œil, de l'œil du nouveau, voir qu'est-ce qui est différent par rapport à ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui a changé aussi, parce que parfois, tout n'est pas rose pour les nouveaux.
Oui, surtout en ce moment, avec la période de télétravail, c'est encore plus compliqué.
Laurence Bloch, vous êtes la patronne du Plaza Athénée à Paris. On voit que de cette crise naissent plein de process différents, plein d'idées, même si là, c'était déjà en place, mais ça s'accélère. Est-ce que vous aussi, vous avez réfléchi à des petits détails? Je ne sais pas, par exemple, je pense au sel et au poivre qu'on ne mettrait pas sur la table de la même façon, qu'on aurait désinfecté avant, puisque chacun l'utilise sur une table. Quelles sont les petites choses que vous avez changées en process?
Complètement. On a revu 80 process dans tous 80. Les métiers du voiturier, en passant par la femme de chambre ou les serveurs. Donc,
par exemple,
on a revu, par exemple, les amendes. Les amendes, quand vous êtes à 3 autour d'amendes, comment on va faire? Parce que tout le monde va mettre ses mains dans les amendes. Donc, on a mis des cuillères en bois jetables. Les chambres, on a décidé de les désinfecter à la vapeur, une fois qu'elles sont nettoyées, bien sûr, à la vapeur.
Par exemple l'exemple du sel et du poivre, c'était une bonne idée? C'est quelque chose que vous avez changé comme process?
Complètement. Maintenant, on ne met plus de sel et de poivre sur les tables. C'est les serveurs qui viennent et qui...
Les petites olives?
Et les olives, c'était déjà avec des pics. Donc
ça n'a pas changé.
Donc on n'a pas eu à
changer. Vous pensez que c'est des choses qui vont perdurer, même après le Covid, parce que finalement, c'est des normes sanitaires qui ne sont pas plus mal que cela à appliquer?
L'avenir nous le dira, mais je ne suis pas sûre que tous...
Sûr.
C'est pas tout à fait sûr. Voilà.
En tout cas, c'est compliqué. Un grand merci d'avoir été notre invitée, Laurence Bloch, la directrice du Plaza Athénée à Paris. C'est déjà la fin de notre émission et on va, juste avant tout cela, remercier quand même notre dernière invitée, Pascal Corpec, qui est le cofondateur de Base Impact, qui était en direct avec nous depuis le Forum de la responsabilité sociale et environnementale de Giverny, dont Europe 1 est partenaire. Et on en reparlera ce soir dans l'interview Echo, ce sera à 22h20.
Et on se retrouve, nous, Emmanuel, lundi à 13h pour une nouvelle France Bouge. On va parler de quoi lundi, Emmanuel?
Eh bien, on va s'intéresser au monde de la tech, comment ils ont vécu cette crise, est-ce qu'ils ont encore des sous pour continuer à se développer. On sera avec la patronne de la Station F, c'est le plus gros endroit au monde pour les startups et ça se passe pour une fois à Paris, en France et donc dans la France Bouge.
Et à lundi, dans un instant, Christophe Ondelat.